bienvenue, vous êtes sur la route 66, l'émission des Music Routes américaines, animée sur Radio RDL, David.
Oui, salut à tous, bienvenue dans route 66, c'est toujours un plaisir de se retrouver parmi vous pour vous diffuser de la bonne musique, et ce soir il va y en avoir un bon nombre, croyez-moi, puisque nous aurons notamment la chance de vous diffuser l'interview d'un coup de cœur actuel, hein. C'est un chanteur, guitariste, multi-instrumentiste américain, à savoir monsieur Ian Kent, qui a sorti il y a de cela quelques semaines un magnifique album qui s'appelle Trick Back sur le label Mosaic. Vous apprendrez donc à le connaître en long, en large, en travers d'ici quelques minutes. Mais auparavant, on va se passer deux morceaux en guise d'introduction, à commencer par un autre album qui nous plaît beaucoup, hein, un album signé Moreland and Arbuckle. C'est un duo américain du sud des US. Si vous avez aimé les North Mississippi All Stars, c'est un petit peu dans la même lignée, hein. C'est vraiment du blues roots traditionnel, mais remis au goût du jour par ce duo de génies. Et je vous propose d'illustrer mes propos tout de suite par cette chanson qui s'appelle Fishing Hole, Moreland and Arbuckle. C'est très très bon et c'est sur route 66 évidemment.
Hi, this is Eric Bibb. You're listening to Route 66 on RDL.
If we have to walk, we're going to Memphis. Got to pay on bill. It's the place to go if you want to make a solid deal. North Carolina's all right. If you want to hold a back all day long, baby, guitar player like me's got to play his own song. So pack your finest dresses, pack your go-to-meeting shoes. Baby, got to look sharp when we play the new Bill Street Blues. We're going to Memphis to play on Bill. It's the place to go if you wanna make a solid deal. Bye-bye, Durham. Louis too. Got to shake their hand. Play them our song. See if we can join the band.
Pouvions-nous imaginer plus agréable que de faire une petite balade du côté de Memphis, Tennessee, avec Monsieur Eric Bibb à travers ce morceau New Bill Street Blues, hommage à cette célèbre rue hantée par bien des fantômes du blues et où se trouvent encore de nombreux clubs représentant cette musique. C'était bien sûr extrait de son album Spirit I Am, paru sur le label Dixie Frog. Alors Eric Bibb, c'est pas tout à fait un hasard si j'ai décidé de programmer dans cette émission, puisque celui à qui elle sera très largement consacrée, à savoir Ian Kent, a été un temps l'interprète en France de Monsieur Eric Bibb. Et pour cause, Ian Kent a un peu cette double culture française et américaine. Il est américain, mais il a passé une grande partie de son enfance en France, et il y vit actuellement, ce qui lui vaut de parler un français absolument parfait, et qui plus est sans accent. J'ai de quoi être jaloux, hein, parce que c'est vrai que mon côté, on peut pas tout à fait dire la même chose, mais ma foi, bon, mon anglais Jean Bomber m'a déjà sorti de bien mauvaises situations, alors respectons-le. Ian Kent, on va le retrouver tout de suite à travers un premier extrait de son album, et juste après on commencera à vous diffuser des extraits de cette interview qu'il m'a accordée chez lui il y a de cela quelques semaines. C'était dans le sous-sol de sa jolie maison dans la banlieue parisienne, un sous-sol complètement aménagé en studio de répétition. Alors à cette occasion j'ai également eu la chance de rencontrer le bassiste de son groupe, The Immigrants, à savoir Sammy Abs, que je salue au passage de façon bien amicale, ainsi que Sophie Louvet, l'attachée de presse de l'artiste, et Isabelle Kratz, sa manageuse, je sais pas si ça se dit en français manager, on va dire sa manager. Allez, on se passe tout de suite un premier extrait de l'excellent album Trick Bag, ça s'appelle Central New York Blues, et juste après on retrouve Yann pour cette interview qui va vous permettre vraiment de découvrir un type absolument fascinant, tout droit sorti d'un roman de Jack Kerouac. C'est parti.
It's act up to Montreal, my buddy craving me, just to get out for a little while, Syracuse City. The weather was bad, but the rides were good all the way up to Watertown, till the traffic thinned out as the sky grew dark and the rain kept coming down. Should have mentioned from the start that my buddy craving me brought along a little bag of reefer and a couple of hits of LSD. My hair was long, we dressed like freaks, but I guess we were blind, 'cause the customs man and the border patrol sure didn't like our kind. Picked up when a pickup truck pulled over to the side of the road, and the first thing the driver asked us is, could we get him stoned? So we fired away and the driver said, hey, let me buy you boys a beer. So we drove into town with our heads in a cloud, parked by the neon sign. The driver said, you don't expect to get across the border this way, the hair, the clothes, and the reefer, you're heading straight to jail. Then he said, I got me a boat and wouldn't you like to go on a cruise of a thousand islands on your way up to Montreal. On all the clothes we owned, a poncho and an army coat, dropped the hits of acid as we walked down to the boat. Froze our asses in the bottom of the boat under a cold, cold midnight moon, but the river looked like silver and we were higher than the moon. Made it up to Montreal and played bluegrass on the streets, making money off the tourists, enough to last a couple of weeks. Came back poor and lost our jobs, but that's the way it goes. Time's a little taste of freedom, it's better no taste at all.
Alors Yann, pour ton premier album solo, après première écoute, ce disque était pour moi, aurait pu être en tout cas pour moi, une bande originale parfaite pour un road movie. Alors est-ce que justement pour toi ta vie est un road movie? Est-ce que tu pourrais un petit peu revenir justement sur ton adolescence et ta découverte de la musique?
Ouais, un road movie, ben disons que maintenant je suis un petit peu plus sédentaire que justement pendant mon adolescence. C'est vrai que, inévitablement, comme j'ai fait, enfin, certains voyages, etc., etc., je suppose que ça se retrouve dans ma musique, et puis j'en parle, je veux dire, il y a certains des morceaux qui sont autobiographiques, et donc il raconte ses voyages à travers les États-Unis en stop ou autre. Ouais, bah, j'aime beaucoup les road movies de toute manière, donc ouais, pourquoi pas faire une BO pour eux.
Et justement, tu me disais que sur ce disque, en tout cas, qui était en partie inspiré par tous tes voyages et tes pérégrinations à travers les USA, et sur l'album, on retrouve des personnages comme ça, ponctuellement. Est-ce que ce sont des gens qui ont réellement existé ?
Alors, il y a un titre sur l'album qui s'appelle Central New York Blues, dans lequel je parle d'un individu qui s'appelle Craig. Craig, il est sur la photo là-haut derrière la plaque. Donc oui, lui, il a absolument existé. Quant à d'autres, je vois pas forcément dans Tijuana où c'est des titres comme... Non, ça c'est non, c'est des inventions, des créations. Ouais.
D'accord. Alors souvent, en tout cas, c'est ce qui ressort des premières critiques du disque. Il y a une comparaison qui est faite avec un petit peu la vie de Jack Kerouac. Alors, est-ce que ça aussi, c'est une source d'inspiration, la littérature pour toi ? Et est-ce que, par exemple, pour une chanson telle que Jail Song, ouais, tu te serais inspiré d'autres romans, parce que Edward Bunker, par exemple, ou Karel Chessman ?
Alors oui à la première question, c'est-à-dire sur l'aspect littéraire, parce que bon, enfin, encore une fois, j'aurais probablement pas entrepris ces voyages si j'avais pas lu On the Road quand j'avais, je sais pas, 16 ou 17 ans. Donc ça a été effectivement une source d'inspiration, presque plus de par rapport à un mode de vie que par rapport à une forme musicale, parce que si tu lis On the Road, d'ailleurs, ils ont sorti un truc qui s'appelle The Original Scroll, qui est en fait l'œuvre complète avant qu'ils fassent toutes les corrections et le raccourcissement qu'il a fait pour pouvoir le publier. Et il y a tout un tas de diatribes contre la musique hillbilly, etc., parce qu'ils adoraient le jazz. Donc musicalement, genre, je suis assez loin du bebop, c'est évident. Mais ouais, par rapport aux personnages, par rapport à... Enfin, c'est un peu les lieux communs, les sentiers battus, mais la recherche de liberté, de soi-même, etc., etc., par le biais du voyage, le côté voyage initiatique, etc. Ouais, ça, c'est une inspiration. En revanche, non, pour Jail Song... Je veux dire, c'est parce que j'écoutais pas mal Merle Haggard à ce moment-là, qui lui-même a passé un certain temps en prison, pour ne pas dire un temps certain. Et c'était plus lui l'inspiration là que Carol Chessman ou ces gens-là.
Et tous ces voyages t'ont-ils servi justement pour te forger une personnalité de musicien, comme tu as traversé quasiment tous les États américains? Est-ce que au fil de tes arrêts, tu rencontrais des musiciens, tu peaufinais ton apprentissage avec eux?
Ouais, alors il y a des événements sporadiques où effectivement j'ai eu l'occasion de faire le jam avec les gens que je rencontrais, etc., sur place. Mais quand tu voyages en stop dans les conditions où je le faisais moi, c'est un peu trop instable comme condition, etc. La guitare, elle me servait surtout de consolation et de truc à faire, et voire pour jouer, pour gagner un peu d'argent dans les rues. Mais j'ai pas joué tant que ça avec d'autres gens, parce que les musiciens sont occupés à trouver des dates et enregistrer des albums, etc. Moi, c'était une espèce d'exil plus que de vacances à proprement parler. Moi, je croyais que j'étais parti pour toujours. Je me voyais le poète des routes américaines, etc., etc., une grande tradition. Puis bon, dans la réalité des faits, je suis retourné en fac à peu près 2 ans plus tard, fauché, horrifié par toute l'expérience. Donc, ouais, enfin, non, j'ai pas joué. Enfin, j'ai peaufiné beaucoup ma technique de truc de bluegrass quand j'étais sur la route, parce que justement, j'avais personne avec qui jouer, et donc tous les trucs que je jouais mal ou à moitié, bon, bah, puisque j'étais tout seul et j'avais que ça à faire, bah, j'en ai profité pour les bosser un peu plus, quoi.
Justement, est-ce que tu pourrais revenir sur ton véritable apprentissage de la musique ? Quelles étaient tes influences ? Étais-tu autodidacte ? Ou alors, as-tu pris des cours quand même ?
Non, je suis autodidacte. Le tout début, c'est mon frère qui m'a filé une feuille avec des accords griffonnés dessus, qui m'a demandé de les apprendre. Au début, j'étais un peu réticent, et puis grâce à des menaces de sa part, j'ai fini par apprendre. Et puis on écoutait beaucoup les Beatles quand j'étais petit, et on essayait de reproduire les belles harmonies vocales. Donc l'idée de chanter en chœur et de tout ça, c'est venu à peu près en même temps. Et puis donc après, arrivé à Syracuse, j'ai donc rencontré le fameux Craig, et qui était un grand fan du Grateful Dead, comme je te disais tout à l'heure. Et donc dans un premier temps, c'était faire un petit peu une espèce de mélange de bluegrass, de blues et de rendre ça aussi psychédélique que possible. Donc ça, ça a été, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé effectivement à, où la guitare c'était autre chose que juste un truc pour essayer d'attirer les gonzesses. C'est devenu un truc, disons, plus sérieux. Et puis je voyais, je commençais à reconnaître un peu ce que j'entendais sur les disques et voir un petit peu ce que le musicien était probablement en train de faire. Donc c'est à ce moment-là que je me suis beaucoup intéressé au bluegrass, et puis dans un premier temps au bluegrass et ensuite au blues. Donc j'ai eu pas mal de groupes de blues, donc ça permet de peaufiner une certaine technique. Et puis après j'ai eu un groupe de folk rock, donc où j'ai même attaqué des morceaux de Zigane, des trucs et du folk irlandais qu'on avait mélangé avec le folk américain que je faisais moi. Donc ça a été un énorme pas technique. C'est à ce moment-là également que j'ai appris des accords, sans rentrer dans un discours technique, disons des accords un peu plus jazz. Ce qu'on trouve dans le western swing, c'est-à-dire où on trouve une musique très country hillbilly. Mais si tu écoutes les accords, c'est déjà tu entends qu'ils ont écouté Duke Ellington et des gens comme ça à la radio, quoi. Donc c'est à ce moment-là que j'ai appris ça, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai commencé à écouter du western swing et ce genre de choses-là. Puis à la fin de ce groupe-là, donc qui s'appelait Shaltai, le batteur de Shaltai, donc Marc Varese, ex-Vulcain, a remonté un groupe qui s'appelait Blackstone, et il m'avait proposé de chanter avec eux, et enfin avec lui à l'époque puisqu'il n'y avait pas d'autres membres encore. Et moi au début ça me semblait un petit peu étrange, quoi. Je veux dire, j'ai écouté Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath comme tout le monde quand je grandissais, et puis j'avais un petit peu laissé ça de côté, et je me demandais surtout si j'étais techniquement, physiquement, et puis en fin de compte, il recherchait pas un chanteur comme je chante moi et qu'on adapte la sauce au fur et à mesure. Et j'ai appris énormément là, notamment au niveau de l'écriture, puisque c'est moi qui assurais l'écriture des textes de Blackstone, qui assure toujours d'ailleurs, puisque le groupe existe toujours. Et donc c'est ça, et c'est là où j'ai perfectionné également. J'ai commencé à jouer de la slide également, enfin un petit peu avant Blackstone, et c'est dans Blackstone que j'ai pu un petit peu perfectionner ça. Donc voilà à peu près le parcours musical jusqu'à maintenant.
I can see a piece of a moon in the right hand corner of my window. It shines through the bars, painting stripes on the walls like the ones that I wear on my clothes. Will the judge and the jury agree? They said I planned your death to be, so they sent me inside for a long, long time, where you come back to haunt me at night. Still wear that short summer dress, and you know that it still drives me crazy. But your smile fades away and the guilt comes back. I could never feel the same again. If I had to go on much longer, and at night I pray that I won't. I know I'll go mad in this 10-foot cell where you come back to haunt me at night.
as eu d'autres professions, d'autres expériences professionnelles durant ton existence? Tu me disais que tu avais été journaliste, interprète.
Ouais.
Est-ce que ce sont également des choses qui t'ont aidé en tant que songwriter pour peaufiner ton travail?
Oui, pas de manière, je dirais, directe. Si ce n'est que, je te dis, hein, moi, je vois beaucoup les choses en termes de langage. Donc, le fait d'être obligé de t'adapter à un langage quand tu écris en journalisme, tu n'écris pas ni des poèmes, ni... Enfin, autre chose, je veux dire, il y a un certain nombre de choses, de caractéristiques qui vont avec un style donné. Donc, le fait d'être obligé de t'adapter à des styles, etc., ça te fait peut-être mieux comprendre également ce que doit être une chanson. Moi, au début, quand j'ai commencé à écrire des chansons, j'écrivais des poèmes. En gros, j'essayais de faire mes poèmes qui soient à moitié structurés pour que ça colle avec la musique. Et en écoutant, en travaillant, je me suis rendu compte, non, une chanson, c'est plus que ça. Enfin, Bob Dylan, lui, il arrive à faire ce genre de choses parfois. Et encore, il prend les règles des chansons, il est tort, mais on est quand même, c'est une variante sur un thème quelque part. Et ouais, je crois que toutes ces expériences-là au niveau de l'écriture, de toute manière, aident l'écriture. De même que quand j'ai commencé à jouer de la mandoline, j'avais peur de perdre mon niveau de guitare. Or non, c'est des trucs qui, au contraire, qui se nourrissent, quoi.
En tout cas, ces expériences t'ont permis de rencontrer moult artistes, hein, tu me disais notamment Eric Bibb.
Ouais.
Est-ce que lorsque tu les rencontrais, tu par contre leur demandais des conseils? Tu leur parlais de ta musique?
Je leur parlais de ma musique, j'étais probablement, parce que, enfin, à un certain niveau, je l'avais mauvaise de rencontrer des musiciens dont j'aimais la musique, hein, et qui sont très souvent, dans le cas d'Eric Bibb et beaucoup d'autres avec qui j'ai pu travailler, qui étaient très sympas. Mais j'avais un côté envieux, je le cache pas. Donc, je leur disais, je suis musicien et je fais ça pour gagner ma vie, quoi. Mais, je crois que j'étais trop gêné ou trop arrogant pour leur demander des conseils, je sais pas.
Tu es américain, tu vis en France, ton groupe est constitué, je crois, exclusivement de Français.
Enfin, Sonny est à moitié kabyle, hein, quand même, précisons pour l'anecdote. Non, oui, ce sont des Français, d'où un peu le nom d'immigrant, parce que je suis un immigrant ici, et eux sont des immigrants à ma musique, quoi, à un certain niveau.
Comment expliques-tu que des gens nés aussi loin des racines musicales américaines, et qui ont d'ailleurs souvent des parcours assez éloignés de ces musiques, puissent par moments donner l'impression de sonner aussi vrai?
Ben, j'en reviendrai à cette histoire de langage, quoi. Quand tu maîtrises bien un langage, tu sais, pour moi, le test de bien parler une langue, c'est de pouvoir raconter des blagues dans cette langue. Ça veut dire que t'as un sens du rythme qu'a cette langue de... Parce qu'une blague, si elle est racontée avec le rythme qu'il ne faut pas, ben, même une blague très drôle le sera beaucoup moins. Ben, c'est un peu le même principe avec, je crois, jouer de la musique. Une fois que tu comprends bien le langage, ben, tu peux bien le parler, quoi. C'est...
En tout cas, aussi bien les sujets que les musiques abordées sont toujours assez différentes. On sent qu'il y a des sources d'influence musicale qui sont assez variées. On a parfois l'impression d'écouter, et c'est pas un mince compliment, une phase de Billy Riley enregistrée au milieu des années 50 dans le studio Sun. Parfois, on est dans des ambiances complètement bluegrass, et pourtant, on retrouve vraiment une grande cohésion dans le disque. Comment expliques-tu le fait que cette cohésion aussi parfaite ait pu se produire avec des musiciens venus d'univers complètement différents?
Déjà, je te remercie beaucoup, parce qu'un de mes doutes terribles que j'avais en l'enregistrant, je me disais, non, il n'y en a pas de cohésion. Je veux dire, il y a un truc à moitié rockabilly, ensuite, comme tu dis, bluegrass, il y a un ou deux titres qui sont plus soul, plus Rolling Stones, ce genre de choses-là. Donc j'avais très peur que ça n'ait pas de cohésion. Donc ça me fait très plaisir qu'il y ait des gens qui trouvent qu'il y en ait. Je crois de toute manière le fait qu'il y ait une personne qui chante et une personne qui écrive, ça donne, y a déjà cet élément-là qui donne une grande cohésion. Et puis bon, les musiciens que j'ai sont des gens très capables, très adaptables, sans pour autant perdre leur âme, ce qui est un peu, disons, le stéréotype du musicien de studio qui peut faire de la chanson française la matinée, du bluegrass dans l'après-midi, enregistrer une session jazz le soir. Et effectivement, il y a, et des fois, il y a, enfin, à l'oreille, c'est vrai que ça vit pas forcément, même si techniquement, c'est pas critiquable. Non, je crois que quand les gens ont le talent et la disponibilité mentale et disponibilité du cœur, je crois que, enfin, tout est possible, quoi.
Tu essaies également maintenant de te servir un petit peu de la culture européenne et plus particulièrement française. Et est-ce que, par exemple, en concert, quand tu as des répertoires plus longs, est-ce que tu vas un petit peu puiser également dans ces sources musicales ? Tu t'y intéresses ?
Pas tant que ça, je dois dire. Pas par une histoire de goût ou une prise de position quelconque. C'est une question de limite de temps, quoi. Je veux dire, entre les contingences de la réalité, etc., etc. Enfin, je veux dire une bêtise, mais faire les courses, s'occuper de l'endroit où on vit, etc., etc. Ça me laisse beaucoup moins de temps. Je me rends compte que quand j'avais une vingtaine d'années pour explorer différents secteurs musicaux. Alors, moi, ce que je retiens de la musique française, c'est les choses que j'écoutais éventuellement quand j'étais gamin, puisque j'écoute pas beaucoup de musique française actuelle. C'était les grands classiques du genre, hein, les Brel, Brassens. C'est quand j'étais gamin, j'avais un grand frère qui achetait les 45 tours de Nino Ferrer et de Jacques Dutronc. Et ça, je trouve que ça n'a, du point de vue qualitatif, en tout cas, même si stylistiquement ça peut-être vieilli. Ça n'a pas bougé, c'est d'une énorme qualité. Et ça, je trouve qu'avec les deux dont je viens de parler, Dutronc pardon, et Ferrer, la plupart du temps, quand j'écoute du rock en français, c'est pas que ça me gêne, mais j'ai la musicalité de la langue de chez moi qui. Enfin, et puis j'ai l'impression d'entendre quelque part une ressucée, un, quelque chose, un produit un peu dérivé, non pas l'essentiel, quoi. Et en revanche, avec Nino Ferrer et Jacques Dutronc, je trouve que c'était extraordinaire, parce que c'était, ça rockait pour de vrai. J'ai entendu l'autre jour qu'on a fait un concert dans le sud, là, près de Nîmes, et dans la musique qui passait après, ils avaient passé, je crois qu'elle s'appelle « Je suis un homme respectable » de Dutronc. Ça rock, je veux dire, ça, attends, c'est extraordinaire. Et tu te poses pas la question, c'est en anglais, c'est en français, ça rock. Et ça, je le trouve pas toujours, et je m'y intéresse plus suffisamment probablement pour le trouver, mais j'entends pas beaucoup ça dans la musique française actuelle, quoi.
Non seulement tu es parfaitement bilingue, mais en plus tu as aucun accent. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais mettre à profit justement pour un jour interpréter des chansons en français, ou alors penses-tu que ton univers musical ne colle pas du tout à cette langue ?
Bon, never say never, hein, quand on dit chez moi, j'ai pas fait une croix dessus. C'est, ça m'intéresserait, mais ça serait, si je faisais des chansons en français, je choisirais un autre type de format musical. Par contre, je pense pas que je ferais de la musique roots américaine avec des paroles en français. Je trouve que y a ce que Nougaro a fait par rapport au jazz, le côté manouche qui est plus suggéré chez Brassens, mais qui pourrait être beaucoup plus accentué. Ça, je trouve, comment il s'appelle, San Severino, c'est ça? Lui, je l'ai entendu, je trouve c'est très sympa ce qu'il fait. Et justement, ça, je trouve, ça se prête, la langue française avec le swing manouche, ça s'y prête très bien. Donc, si je faisais de la chanson française, ça serait dans un autre genre musical, je pense.
Pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de sortir ton premier album solo?
Je crois pas que j'avais déjà forcément les idées suffisamment claires pour le faire avant. Et puis j'ai toujours joué dans des groupes, et quand j'ai joué dans des groupes, j'étais dévoué corps et âme au groupe. Donc j'avais pas forcément le loisir d'y penser. Et puis je crois que j'étais pas prêt ni mentalement ni techniquement. Je veux dire, j'avais pas écrit suffisamment de choses de qualité que je voulais revendiquer. Et j'avais pas la maturité, enfin je sais pas, enfin je sais bien qu'il y a des gens qui ont commencé à 18 balais à écrire des chansons. Moi, ça n'a pas été mon cas. Pendant longtemps, j'ai écrit et j'ai repris les titres des autres, et il m'a fallu un temps long pour arriver à combiner les deux.
Quelle définition conviendrait le mieux à ce disque? Serait-ce tout simplement son titre, Trick Bag, qui a peut-être une signification particulière pour toi?
Ouais, déjà, ça provient d'un titre de Earl King qu'on joue d'ailleurs régulièrement en live. Mais à la fin, j'ai décidé, enfin, d'ailleurs, je ne me souviens plus exactement de la logique, mais on a fini par ne pas le mettre sur l'album. Donc, y a déjà la référence à ça. Et puis, un trick bag, c'est un sac à malice. Et puis, c'est aussi une déception. Pas au sens d'être déçu, au sens d'arnaque plus. J'aime bien le côté... j'espère que je n'arnaque personne avec la musique, mais j'aime bien cette notion, ouais, dans l'album.
Hors micro, tu me disais que tu avais déjà des petits projets en parallèlement à la sortie de ce disque. Est-ce que tu peux déjà m'en parler?
Inévitablement, un certain temps a passé entre déjà l'enregistrement de l'album et la signature avec Mosaïque. Donc on ne fait pas que se tourner les pouces malgré les légendes qui courent sur beaucoup de musiciens. Donc j'ai commencé à écrire d'autres titres. Donc je dois en avoir 5-6 là déjà qui sont en chantier, quoi. Qui ont le squelette, on va dire. Ils ont des accords, ils ont une mélodie, ils ont des paroles. Donc c'est, si j'étais Bob Dylan ou un de ces folk qui joue en solo, je pourrais déjà probablement les jouer comme ça. Mais je les entends déjà un peu plus orchestrés, donc maintenant il s'agit de les mettre sur pied, quoi.
Aurais-tu autre chose à ajouter à cet entretien? Y a-t-il un sujet en particulier dont tu aurais aimé parler?
Non, je crois qu'on a couvert beaucoup de bases. Moi, ça me fait très plaisir de faire ce genre d'interview, parler de cette musique, puisque c'est ce qui me tient à cœur. Donc non, merci beaucoup. Days
days. Well, things gonna work out right. There'll be better days. When you get back on your feet, there'll be better days than this one. Been up all night drinking your wine. You've gone from lonely to crazy. Crawled so deep inside your shell, you can't tell what's up from down. But darkness is like other things, and it don't last forever. So grab your coat, we'll put some miles between you and your pain. There'll be bad days if you make it through tonight. There'll be bad days. Well, things gonna work out right. There'll be bad days when you get back on.
This is Ian Kent. You're listening to Route 66 on Radio RDL 103.5 FM.
can't find my way home. Then you take away my sadness, touch me deep inside my soul.
Cet album est tout simplement devenu l'un de mes disques de chevet. Il s'appelle Trick Bag et est disponible chez tous les bons disquaires, paru sur le label Mosaïque. Alors Ian Kent and the Immigrants, vous pouvez les retrouver sur le net, évidemment. Ils ont un MySpace, www.myspace.com/Ian Kent and the Immigrants. Et puis sinon, vous aurez les liens sur notre propre site, sur laroute66.free.fr, où l'interview est entièrement transcrite avec des photos à la clé de Yann dans son studio de répétition avec ses divers instruments. Et justement, très gentiment, après cette session de photos, il m'avait proposé d'enregistrer un petit titre uniquement pour vous, auditeurs de Route 66. Il a donc saisi l'une de ses guitares et il s'est dit, tiens, pourquoi ne pas interpréter à mes amis auditeurs et auditrices de Route 66 ce vieux standard que Hank Williams avait chanté en 1949. Ça s'appelle Love Sick Blues. C'est rien que pour vous, chers auditeurs. Ian Kent en live, une exclusivité Route 66.
I got a feeling called the blue. Ooh, Lordy, since my baby said goodbye, I don't know what I'm gonna do. All I do is sit and cry. Oh, Lord, that last long day she said goodbye. Well, good Lord, I thought I would die. She'll do me, she'll do you, she's got that kind of loving. Oh, I love to hear her when she calls me sweet and daddy. It is such a beautiful dream. I don't know what I'm gonna do. I lost my heart, it seems. I'd grown so used to her somehow, but I'm nobody's sugar daddy now. Lord, I'm lonesome. I got the lovesick blues. Well, I'm in love with a beautiful gal. That's what's the matter with me. Well, I'm in love with a beautiful gal, but she don't care about me. Well, I tried and I tried to keep her satisfied, but she just doesn't see. And now that she's leaving, this is what I've got to say. I got a feeling called the blues. Since my baby said goodbye, I don't know what I'm gonna do. All I do is sit and cry. Yeah, Lord, that last long day she said goodbye. Well, good Lord, I thought I would die. She'll do me, she'll do you, she's got that kind of loving. Oh, I love to hear her when she calls me sweet and daddy. It is such a beautiful dream. I don't know what I'm gonna do. I lost my heart, it seems. I've grown so used to her somehow, but I'm nobody's sugar daddy now. Lord, I'm lonesome. I got the lovesick blues.
Et c'était rien que pour nous, Lovesick Blues de Monsieur Hank Williams, une version totalement inédite offerte à nos auditrices et nos auditeurs par Monsieur Ian Kent, sans son groupe The Immigrants, des super gars que j'ai eu la chance de retrouver le soir même, un petit peu par hasard, au Grand Rex à Paris pour le concert de Willie Nelson. Du coup, ça a fait vraiment une journée sous le signe des musiques roots américaines et sous le signe de Ian Kent. Je vous rappelle le titre de son album Trick Bag, paru sur le label Mosaïque. Quant à nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec encore une fois une nouvelle interview d'artiste, et en principe ce devrait être celle d'une chanteuse et spécialiste de la guitare slide, bien qu'elle s'y soit prise tardivement à la pratique de cet instrument, puisque je crois que ça fait seulement 4 ou 5 ans qu'elle en joue, à savoir l'amérindienne Pura Fée. Ça va être également un très très grand moment. D'ici là, évidemment, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, sur laroute66.free.fr, où vous pouvez retrouver toutes les playlists des émissions si vous voulez rechercher les références des albums qu'on vous diffuse. Sinon, il y a 320 interviews de transcrites que vous pouvez lire, des centaines d'émissions en téléchargement, des centaines de vidéos, des reportages, des centaines de photos, enfin plein de choses à se mettre sous la dent sur notre site. Et puis, plus personnel, je vais également vous donner l'adresse de mon site MySpace, www.myspace.com/davidroute66. Allez, la semaine prochaine sur le 103.5 FM Radio RDL, vous retrouverez Route 66. Mais auparavant, on se quitte en beauté de façon très country avec Monsieur Willie Nelson en live. Ça s'appelle When the Road is Called Up Yonder. Et c'est extrait de l'album The Troublemaker. Alors, c'était pas un titre qui, à l'origine, figurait sur l'album, mais c'est, par contre, Columbia s'était rattrapé sur une réédition plus récente en mettant des titres bonus, dont celui-ci enregistré en live au Texas Opry House en juin 1974. Du grand Willie Nelson, que je dédie à Ian Kent. Salut à tous et à la semaine prochaine.
Ciao à tous, bonne route.
When the trumpet of the Lord shall sound in time, she'll be no more. In the morning of the everlasting road. And when life on earth is over and we're on the other shore. And when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder. When the roll call up yonder, when the road call up yonder, when the road is called up yonder, I'll be there. Let's do it one more time and practice. When the road call up yonder, when the road call up yonder, when the road call up yonder, when the road is called up yonder, I'll be there. From the dawn till setting sun. Now let us talk of all his wondrous love and care. And when this old life is over, and when we're on the other shore, and when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder. when the roll is called up yonder on the dam. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there one more time now. When the roll is called up yonder, 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 I'll be.
All right. We've got some more folks backstage that might come out if they start singing this song.